Catherine le matin. 106.9 Mauricie. Que la Mauricie se
lève. À 9h21, je suis tellement heureuse de le retrouver. Puis là, oui, je vais le tutoyer parce qu'il a quand même été chroniqueur. C'est pour ça que je fais la même chose avec Yves-François Blanchette. Yves-François, c'était mon chroniqueur. Il ne faut pas en croire qu'on ne se connaît pas non plus. Vous savez, je vous vois toujours mes invités, puis je vous vois toujours mes auditeurs également. Mais là, chroniqueur, puis bon, bref, tout ça pour dire que c'est normal que je le tutoie. Salut Luc Fortin.
Salut Catherine, très content de te parler aussi ce matin.
Ben vraiment, Luc, t'es rendu maintenant VP chez Tact Conseil.
Oui.
Explique-nous peut-être, les gens qui ne connaissent pas Tact Conseil, qu'est-ce que vous faites?
Ben, c'est une grande boîte en fait de relations publiques, de relations gouvernementales. On fait aussi de la gestion de réputation, de la gestion de crise. C'est toutes des affaires qu'on fait en politique finalement. Alors, c'est la plus grande firme à propriété québécoise. Et puis, on est environ 80 experts. On a des mandats un petit peu partout à travers le Québec. Alors, très, très heureux de ces nouvelles fonctions, je te dirais.
Bon, ben formidable. Alors, tant mieux si tu es heureux. La bonne nouvelle pour nous, c'est que de temps en temps, tu vas revenir comme ça.
Oui.
Parce que tu n'as pas perdu, évidemment, toute ta passion, toute ta fougue non plus.
Ben, non.
Puis là, cette semaine, on est en
pleine... jamais, ça, Catherine.
Non, je le sais. Alors, là, on est en pleine rentrée parlementaire, une rentrée oui. Un peu particulière. Donc, tu t'attardes ce matin à regarder quels sont les défis pour chaque parti. On va commencer par la CAQ, bien sûr.
Ben oui, par le parti au gouvernement. Et puis, ils amorcent cette session parlementaire-là encore au sommet des intentions de vote. Là, on voyait le sondage de Léger la semaine dernière qui est placé à 48%. Donc, c'est 10,6% de plus que leur résultat électoral, ce qui est quand même incroyable parce que là, on est à mi-mandat. Hein? 1er octobre, ça va faire 2 ans qu'ils sont là. Alors, se maintiennent quand même au sommet. Mais le défi va justement être de maintenir ces appuis-là. Parce que c'est quand même très élevé. Et surtout dans un contexte là, où la gestion de la pandémie va prendre encore beaucoup, beaucoup de place et où je pense que là, ça sera plus difficile pour le gouvernement de fédérer les Québécois derrière les mesures sanitaires. On le voit, il y a plus de scepticisme dans le discours public. Quand on parlait au docteur Arruda, hein, qui était une espèce de rockstar ce printemps, et là, oui. C'est un petit peu plus difficile pour lui. Et puis oui, il y a plus de scepticisme dans la population, plus d'impatience, plus de fatigue. Alors, c'est un peu normal. Puis là, ben les enjeux de la relance économique commencent à poindre également. On voit de grandes chaînes qui se mettent sous la protection de la loi sur la faillite, de grandes entreprises qui ferment également. Donc, il y a là un enjeu pour la CAQ, puis en même temps, il leur reste quand même des engagements importants à réaliser, notamment en matière d'accès aux soins de santé. On nous a promis de renforcer la protection du français également cet automne. Alors, ça aussi, ça peut être des enjeux qui peuvent polariser un petit peu, qui peuvent être explosifs sur le plan politique. Donc, ce sera quand même difficile pour la CAQ de se maintenir au sommet des intentions de vote avec les sujets à venir. Oui.
J'ai hâte de voir, parce que c'est difficile pour eux actuellement. Tu sais, faut que tu gouvernes en même temps que tu gères la crise, là. Ce qui n'est pas
exactement
nécessairement évident. Leur plan de match du départ, tu sais, il s'est effondré, là.
Oublie pas qu'au début du mandat, ils ont fait leur pain et leur beurre, là, des enjeux identitaires. Alors là, ça occupe moins d'espace. On va essayer de reprendre un petit peu ce créneau-là avec la langue française cet automne. Non, mais c'est beaucoup plus difficile parce que les priorités des gens sont pas mal ailleurs, là.
Luc, hier, on a fait un peu le même genre d'exercice de façon différente parce que Robert Aubin a sa façon bien à lui d'amener les choses. Lui aussi nous parle un peu des défis. Et chez les libéraux, je lui disais, puis ça a l'air de base, le principal défi, c'est de faire connaître Dominique Anglade. Ça m'a un peu surpris dans les derniers sondages. Elle n'est pas tant connue.
43% des Québécois qui disent qu'ils ne connaissent pas. C'est quand même beaucoup. Alors, c'est bien difficile de dire, ben, je vais voter pour cette personne-là quand elle ne connaît pas. Puis elle est chef de l'opposition officielle, donc elle doit être l'alternative au gouvernement. Et puis, elle fait face à un premier ministre qui a 76% d'opinion, de bonne opinion, donc c'est très élevé. Évidemment, seulement 2% des Québécois qui connaissent pas François Legault. Et on le sait, là, dans une campagne électorale provinciale puis fédérale, ben, le chef, c'est un déterminant important du vote. Alors, elle doit être présente, elle doit se faire connaître. Ça fait quand même pas mal de médias, là, en fait, à tourner cet été, mais il en demeure pas moins qu'il faut qu'elle soit encore plus présente, qu'elle réussisse à se démarquer. Alors, pour elle, ça, c'est un enjeu très important. Puis, il y a toujours, après une course au leadership, un enjeu d'unité du caucus. Parce que là, bon, il n'y a pas eu de vote, il n'y a pas eu de débat, on n'est pas allé au bout de l'exercice là, de cette course au leadership, mais il y avait quand même des camps. Et puis ça laisse toujours des traces, des cicatrices. Puis il faut réunifier ces gens-là, puis les rembarquer dans la même équipe pour que, justement, ils se rendent compte qu'ils ont tous le même logo sur leur chandail jusqu'à la prochaine campagne électorale. Alors, unification des troupes, je te dirais que pour elles, ça, c'est le deuxième principal défi.
Luc, du côté du Parti québécois, moi, puis tu viendras compléter, dans les défis qui les attendent, bon là, évidemment, ils vont se nommer un chef officiellement, mais ça se peut que le chef choisi ne soit pas un parlementaire. Mm-hmm. Est-ce que tu l'avais inclus dans tes défis?
Ben oui, puis c'est justement là, ils vont choisir un nouveau chef le 9 octobre. Et si le nouveau chef du PQ n'est pas un élu, il y aura deux défis. Tout d'abord, un défi de visibilité à l'Assemblée nationale. T'sais, c'est bien difficile d'être un chef d'un parti quand tu es à l'extérieur de la Chambre, de un. Et de deux, il va y avoir un défi d'adhésion du caucus, parce que tu as vu que la vigoureuse Lorraine Richard, la députée de Duplessis, elle a dit qu'elle n'excluait pas de quitter le PQ si Sylvain Gaudreau était pas chef, parce qu'elle sentait un peu de mépris des autres candidats envers les députés actuels. Alors, ça sera pas une mince tâche. Surtout, tu sais, quand un caucus de 9 députés, là, peut pas te permettre de perdre des morceaux en chemin non plus. Alors, chaque joueur est important, puis il va y avoir un important défi d'unité là aussi, si le chef n'est pas Sylvain Gaudreau.
Dis-moi, du côté de Québec solidaire, qu'est-ce qui les attend?
Ben, du côté de Québec solidaire, puis d'ailleurs, on parlait du PQ, tu sais, Pascal Bérubé s'est plaint au cours des dernières semaines qu'on parle beaucoup des difficultés des libéraux, puis qu'on parle beaucoup des difficultés du PQ, mais qu'on parle pas beaucoup des difficultés de Québec solidaire. Moi, je pense que ça s'explique aussi parce que Québec solidaire n'ont jamais gouverné. Alors, ça va moins bien que ça allait, mais quand même, la chute est moins vertigineuse qu'elle l'est pour les libéraux ou pour le Parti québécois. Mais pour Québec solidaire, ils ont quand même perdu le tiers de leurs appuis là, depuis le début de ce mandat-là. Ils sont présentement à 11% des intentions de vote. Ils ont eu 16,1% des votes à l'élection. Fait que, si l'élection avait lieu aujourd'hui, finalement, ça redeviendrait un parti du plateau Mont-Royal et des environs. On n'aurait plus de sièges à l'extérieur de Montréal. Alors, moi, je pense que le défi pour Québec solidaire, c'est de démontrer qu'ils sont sérieux. Okay. C'est de démontrer comme ils étaient à l'époque de Françoise David et d'Amir Kadir, une boîte à idées et non pas une boîte à coups d'éclat. Et je pense que ça a beaucoup nuit à leur crédibilité au cours des deux premières années de leur mandat. Alors, ils vont devoir démontrer qu'ils sont sérieux, puis qu'en même temps, alors que la relance économique va occuper beaucoup de place, ben ils vont devoir se positionner aussi sur ces enjeux-là, parce qu'on les connaît beaucoup comme étant des défenseurs de l'environnement, de la diversité et tout ça, mais les enjeux économiques vont occuper beaucoup de place, alors ils vont devoir démontrer que leur discours économique est crédible, et ça, c'est un défi pour eux autres, puis en même temps, eux autres non plus, ils sont pas bien plus nombreux que le PQ, ils sont 10, et là, ils vont avoir des effectifs réduits parce qu'il y a un baby boom à Québec solidaire, puis ils vont avoir deux députés en congé de maternité, puis un en congé de paternité, alors ce sont des bonnes raisons, mais néanmoins, ça leur fait quand même moins de joie sur la glace aussi en même temps, là.
Je te pose la question en terminant, puis c'est ça depuis le début. Ça devient-tu une épine dans le pied à un moment donné de ne pas avoir un seul chef ou une seule chef et d'avoir toujours des co-porte-parole? Pour toi, ça peut-tu devenir problématique ou non? C'est l'essence même de Québec solidaire?
Ben moi, je pense que pour eux, tu sais, oui, c'est leur essence même et je pense pas qu'ils vont changer ça, mais dans une perspective électorale, je pense que c'est un enjeu pour eux autres parce que, tu sais, évidemment, comme je te disais tantôt, le chef, c'est un déterminant important du vote. Puis oui, on sait que ce serait Manon Massé qui serait première ministre, puis c'est elle qui participe au débat des chefs, mais pour le commun des mortels, quand tu vois à la télé, Gabriel Nadeau-Dubois, il occupe autant de place qu'elle, fait que c'est jamais clair, là, tu sais, c'est qui a le plus d'influence dans ce parti-là. Il y a une ambiguïté, je pense, qui leur nuit sur le plan électoral, mais en même temps, je pense pas que c'est quelque chose qui vont changer demain matin.
OK. Hey, c'était bien le fun de te jaser ça. On reprend ça bientôt?
Ben bientôt, et je te fais une promesse, Catherine.
Vas-y donc.
Je te fais une promesse, parce que j'ai appris au cours des derniers mois, et j'étais tellement taquiné avec nos performances du Phoenix à Sherbrooke, je pense que petit Jésus me punit, on n'a même pas eu de fin de saison. Alors, tu sais, on était un peu comme les Expos de 94, mais version hockey junior majeur, on est les champions, jamais consacrés, alors je t'en fais plus jamais.
Parce que Luc, on le répète, bon, évidemment, Luc habite en Estrie, partisan des... du Phoenix, mais je m'excuse. Et bon, c'était une grosse année pour vous autres, mais en effet, ça s'est juste pas concrétisé. Alors, tu vois ce qui arrive, les vrais champions gagnent un championnat, Luc. Salut, à bientôt, Luc.
Bye-bye, à bientôt.
OK, bye-bye. Luc Fortin, on avait beaucoup de plaisir. On se taquinait, parce qu'évidemment, bon, sur nos ondes, c'est sûr que notre cœur est avec les cataractes, on est des partisans des voltigeurs aussi dans le centre du Québec. Alors, c'est le fun, on se taquine comme ça.